Déambulation culturelle et initiative locale, tous les mercredis à 17h30, en rediffusion le jeudi à 10h, sur Antenne Doc.
Antenne Doc vous propose une déambulation un petit peu particulière, celle du mardi 17h30, rediffusion le mercredi 10h. Dans un petit hameau situé sur la commune de Cor, vit une femme à la voix éraillée, remplie d'effluves de tabac. Cette femme a traversé le temps, les époques, la guerre de 39. Et me voilà chez elle, entourée de sa fille, de sa petite fille et de son arrière-petite fille. Cette femme porte sur elle les souvenirs d'une vie passée, mais aussi un regard très aiguisé sur le monde actuel et futur. Cette femme s'appelle Annie. Annie Bonhomme. On s'installe autour de la table, on boit un thé, on mange un petit gâteau au chocolat et nous voilà partis dans une discussion autour de sa vie et de ses souvenirs. Je vous propose le portrait d'Annie. D'Annie Bonhomme. Alors, je suis avec Annie Bonhomme. Quel joli nom.
Née d'Estefanis. D'E-S-T-E-F-A-N-I-S.
D'accord.
En principe, nous pensons que c'est de descendance grecque. Par ailleurs, j'ai connu 5 de mes bisaïeux.
Bisaïeux.
Oui. Ouais. Dont un qui s'appelait Donna Tosello. Et dont la famille avait fait souche après la guerre entre, je crois, c'est la Hongrie ou l'Autriche et l'Italie. Et dans le village, ils étaient surnommés les Gigoïnes, c'est-à-dire les Gitans. Nous avons appris ça par une personne qui venait travailler avec Roland à Entrecasteaux dans le Var. Et on a fait connaissance, on se parle de d'où on vient, ce qu'on a fait comme aujourd'hui. Voilà.
Alors, tu es née en 1930, au mois de mai, ce joli mois de mai.
Oui, le 10 mai.
Le 10 mai, donc c'était ton anniversaire. Non, c'est ton anniversaire.
Ça va être mon anniversaire, 91 ans le 10 mai, et je passe dans ma 92e année.
Exactement. Donc, à Cannes.
À Cannes. De Joséphine, ma maman, qui avait vécu une étrange histoire. Sa mère était morte alors qu'elle avait 21 ans. Sa maman avait 21 ans quand elle est morte. Parce qu'elle était mariée très jeune, à l'âge de 18 ans, et elle laissait à son départ une enfant de 3 ans, et un bébé qui était ma maman. Les obsèques ont eu lieu, et le soir des obsèques, mon grand-père maternel a disparu. Et sa famille, ses frères et sœurs, à ce moment-là, ont perdu leur père, et l'ont fait rechercher jusqu'à son lieu de naissance où quelqu'un a pensé à l'avoir vu passer. On l'a retrouvé 52 ans après. Par un hasard, un de ses frères était exploitant forestier avec ses deux fils à Valbonne. Et une année, il a eu beaucoup trop de travail. Il a demandé à un Génois, un jeune Génois, parce qu'il y avait beaucoup aussi à 200 là, dans le col qui descendait sur la ville de Gênes, des exploitants forestiers. Vient un jeune homme pour les aider. Les choses se terminent, le chantier se termine, il repart chez lui. Et quelque temps après, il envoie une invitation au plus jeune de mes petits cousins pour l'inviter à son mariage. Il se rend au mariage et au moment de partir, ce jeune marié qui avait travaillé avec eux à Cannes, à Valbonne, leur dit, il faut que tu viennes avec moi, on va aller visiter le Campo Santo, le cimetière de Gênes, qui a une réputation mondiale, parce qu'il y a des statues magnifiques, il faut que tu vois ça. Ils vont visiter le cimetière. Et quand ils ressortent du cimetière, il y avait là un vieil homme, avec une boîte, comme ça se faisait de ce temps-là. Ils vendaient des pinces à ongles, des peignes, des brosses, des lames de rasoir. Il dit, oh, j'ai oublié de prendre ma pince à ongles, dit mon petit cousin. On va voir ce vieil homme, peut-être il en a. Alors il s'approche, dit, bonjour, je voudrais une pince à ongles. Et le vieil homme lui répond, mais j'ai ce qu'il vous faut. Oh, comme dit mon cousin, comme vous parlez bien français. Oh, le vieil homme dit, j'ai vécu longtemps en France. Ah bon? Dans quelle région? Dans les Alpes-Maritimes. Ah bon, moi je viens aussi des Alpes-Maritimes, dit mon cousin. Et où vous étiez dans les Alpes-Maritimes? À Valbonne. Ah bon? Mais alors, moi aussi je viens de Valbonne. Et comment tu t'appelles? Dit le vieil homme. Je m'appelle Dovery. Marquissier, qui es-tu? Je suis le fils d'un tel. Et voilà comment on a retrouvé mon grand-père maternel. Donc il arrive au village, mon jeune cousin, il dit, papa, papa, j'ai une bonne nouvelle, j'ai retrouvé ton père. Et son père lui dit, lève-toi de là parce que je vais te coller une correction dont tu te rappelleras toute ta vie. Mais non, c'est vrai, regarde, j'ai la photo. Voilà.
Tu as évolué dans un milieu plutôt modeste.
De chez maman, oui.
Ouais.
Maman, les chaussures, elle ne savait pas ce que c'était. Le goûter, c'était... À la saison, c'était... Un oignon frais et un petit peu d'huile d'olive. Elle portait à manger quand elle était de repos à l'école. Elle portait le panier de midi à son grand-père maternel, là où il était jardinier dans les grandes propriétés qui sont dans les collines au-dessus de Cannes. Voilà. Après, quand elle a été adolescente, elle partait pour faire des vendanges dans le Var. Et puis quand elles ont toute la troupe de cueilleurs a voulu rentrer, il y a eu une inondation terrible qui a emporté les rails. Et on les a passés à dos d'homme pour rentrer à Cannes. Voilà. Elle a rencontré mon père parce que les grands-parents de mon père s'étaient mariés à Cannes, donc le grand-père qui était de descendance autrichienne, on leur avait fait cadeau pour commencer leur vie de couple à ma grand-mère qui était née à Fontaine, dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Nice. Une vache et une très vieille maison où il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité. Partant de là, ils ont eu 12 enfants, dont 9 vivants. Et ils ont eu une étable avec 20 vaches, un taureau et 2 chevaux, une jument, un cheval, pour aller tous les matins à 6 km porter le fumier et le purin pour engraisser les champs qu'ils avaient achetés qui était à eux. Ils ont fait fortune. Mon arrière-grand-père, donc, partait tous les ans dans le Jura et il revenait avec 2 wagons de vaches. Il en vendait un, ça lui payait les siennes. Voilà. Ils ont fait fortune. Ils ont fêté et j'étais présente parce que j'ai été la première arrière-petite-fille de ce couple, dont la mère de mon père était la fille aînée. Et j'ai donc assisté à leur noce de diamant, 60 ans de mariage, avec tous les enfants et les conjoints des enfants, de leurs enfants, moi, et un petit cousin, un petit arrière-petit-fils, qui avait 3 ans de moins que moi. Voilà.
Ça vient un peu de ça. Aujourd'hui, tu vis au hameau d'Auriac à Cor, accompagné de ta fille, de tes petits-enfants. C'est comme s'il y avait une espèce de transmission, un petit peu, de cette histoire-là. C'est ça ?
Il y a une histoire que je prends comme telle, c'est que ce vieux couple a laissé une propriété, un hameau dans Cannes. Quand ils ont vieilli, ils ont fait venir un homme de loi qui a fait l'estimation de 9 parcelles. Ils ont mis les numéros dans un chapeau et ça a été tiré comme ça. Chacun a eu son lot. La mère de mon père, elle a tiré le numéro 9, où il y avait déjà un appartement construit. Elle a donc payé un loyer à ses parents. Et puis il y en a d'autres qui ont fait construire sur leur lot, qui ont payé également un loyer à mes arrière-grands-parents. J'ai fait ma première communion avec mon arrière-grand-mère paternelle, la mère de mon père. Mon arrière-grand-père, le Jigoïne. Tous les jours, dans cette propriété, il y avait un jeu de boules et un gros figuier, un banc, et tous les jours, il allait de son logement sur le banc, il faisait sa sieste. Il dessinait avec sa canne des dessins sur le jeu de boules. Et il y avait là, entre les maisons et le jeu de boules, il y avait un vallon qui évacuait les eaux qui venaient des collines au-dessus de Cannes. Jusqu'à la mer, ça allait. Et quelqu'un est passé, comme tous les jours, et a vu M. Tosello, qui avait l'air avachi. Elle est venue jusqu'à la maison pour le dire. Il est mort sur son banc la veille de la déclaration de 39-40. Heureusement pour lui. Que je peux te raconter encore.
Ça nous amène justement à cette période où il y avait une tante assez exceptionnelle qui s'appelait la tante Coradine.
La tante Coradine était la femme, l'épouse du frère aîné du père de ma mère, de mon grand-père maternel. Oui. Celui qui est parti 52 ans sans qu'on le retrouve.
Alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette tante Coradine ?
Tante Coradine, c'était le courage, l'ouverture. Tout le monde était bien reçu chez eux. Et le courage physique, parce que les lessives avec trois bouscatiers...
C'est quoi un bouscatier ?
Bouscatier, c'est le bûcheron.
D'accord. Et donc, cette tante Coradine, elle est... amener son linge ?
Oui, dans la brouette, à peu près à 6 km, il y avait un lavoir communal. Elle lavait, elle redescendait le linge, elle l'étendait à l'étendoir communal. Et jamais rien ne disparaissait de l'étendoir communal. Il y avait le respect. Voilà. Ça aussi, tu es tranquille si tu vas étendre ton linge en plein air accessible, que tu retrouves tout. Hein.
Oui,
ça relèverait du domaine de l'étrange.
Voilà. Et cette tante a été très importante pour toi ?
Elle a surtout été très importante pour ma maman. Parce que, comme mes parents, mon père était électricien. Dans un atelier de Cannes, qui avait une très belle clientèle, des gens huppés sur la colline. Mais il avait sa paye, c'est tout. Hein. Et puis, en 1936, il y a eu les premières manifestations du Front Populaire, auxquelles j'ai participé. On avait rendez-vous sur une place de Cannes. Mon père me prenait sur ses épaules et j'assistais aux manifestations.
Qu'est-ce qui s'y passait dans ces manifestations ?
Rien de violent. C'était des défilés avec des écriteaux et des protestations, mais rien de violent, dont je me souvienne. Mmh.
Et tu te souviens que cette période a été assez importante dans l'évolution de notre société aujourd'hui ?
Oui. Certainement. Les soirs d'été, mon père rentrait du travail. On prenait un pique-nique, on allait à pied. Ça faisait bien 3-4 kilomètres aussi. On allait dîner sur la plage où mes parents se baignaient. Moi non, j'ai toujours été... J'ai jamais aimé être dans cette espèce d'immensité d'eau. Je trouvais pas ma place, voilà. Et puis, bon, ben, après, il y avait de ce temps-là... les hommes jeunes étaient obligés de faire une quinzaine de jours dans l'armée. Comme ça bougeait avec la venue d'Hitler dans les années 30-33, devait subodorer que quelque chose de pas agréable allait se passer. Donc, voilà. Donc tout ça, pendant ce temps-là, il n'y avait pas sa paye qui rentrait. Donc, difficulté de vie. Voilà. Pour ma mère qui restait comme elle a pu. Après ça, il y a eu donc la déclaration de guerre. Mon père est parti, il a été mobilisé dans les hommes qui n'avaient plus l'âge de faire leur service militaire, la réserve, régiment de réserve. Il a été à Saint-Jean-Cap-Ferrat pendant quelques temps. Et quand les Allemands ont commencé à bouger vraiment et à envahir la Pologne, la Belgique, ils ont été envoyés, son régiment a été envoyé dans le Nord. Le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà. Et il a été fait prisonnier à Berg, à côté de Dunkerque, je crois. Après, on les a fait marcher jusqu'en Belgique. Et on les a emmenés sur des bateaux jusqu'à Hambourg, où il a été fait prisonnier. Donc, il a été fait prisonnier en 40, et il est revenu en juin 45. Donc, je n'ai pas vu mon père pratiquement de 39 à 45.
Comment s'organiser la vie sans les hommes du village ?
Sans les hommes du village, bien, en ce qui me concerne, c'était... Ma mère avait trouvé un travail partiel dans un atelier de couture. Elle était couturière. Et Ça et la pension conservée au, pour les militaires et pour les prisonniers de guerre. L'État servait une petite pension. Alors, personnellement, j'ai le souvenir d'avoir fait la queue pour aller chercher les cartes d'alimentation. Et une fois, j'ai fait la queue pendant des heures pour avoir du poisson. Et quand je suis arrivée à mon tour, il n'y avait plus de poisson. Alors avec maman, elle avait récupéré après, elle a monté un atelier de couture à domicile, dans l'appartement qu'on occupait, qui appartenait à mes grands-parents paternels, en succession de Jigoin. Et elle a habillé des personnes qui travaillaient à la clinique, Beau Soleil, la propriétaire des murs, la directrice, l'infirmière-major et une autre infirmière. Et moi, à ce moment-là, j'avais 17 ans par là. La guerre était finie, mon père était rentré, mais il a été marqué physiquement, moralement. Il est resté des mois, peut-être même des années, sans pouvoir reprendre le travail. Il ne pouvait pas. J'allais livrer à domicile les vêtements que faisait ma mère avec les deux ouvrières et une cousine. Et un jour, la directrice de la clinique vient pour un essayage et elle dit « Je cherche quelqu'un pour m'aider parce que maintenant qu'il y a les mutuelles et toutes les conventions avec la sécurité sociale, j'ai trop de travail, je m'en sors pas. » Et moi, j'avais, à ce moment-là, j'avais pas tout à fait 21 ans. J'avais déjà mon bébé, qui avait 11 mois. Et je cherchais du travail. Elles en ont parlé, qu'elles viennent se présenter. Ça a marché. Je suis donc entrée à la clinique au mois de mars 51. Rolande avait 11 mois, ma fille Rolande que vous connaissez.
Oui.
Et je travaillais 12 heures par jour, 6 jours par semaine. J'ai été mise au courant au mois de mars. La directrice a laissé son poste pour se marier à un médecin généraliste qui faisait de la psychiatrie aussi, au mois de décembre. Alors j'ai glissé au poste de direction.
D'accord.
Voilà. Parce que j'avais été placée à la sortie du lycée par l'école. Nous étions deux, les deux premières du canton, nous avons une place. Et j'ai été placée dans un chai. Je tenais le compte de régie de circulation d'alcool qu'il fallait qu'il corresponde au nombre de litres et de degrés transportés. Voilà.
Donc ça, c'était avant de rentrer dans la clinique.
Juste avant ma clinique, 17 et une vingtaine d'années. Et j'ai travaillé entre 17 ans et 21 ans où je suis rentrée à la clinique, dans un hôtel sur la Croisette, où travaillait le père de ma fille.
Qui n'était pas encore la Croisette que l'on connaît aujourd'hui.
Non, elle était beaucoup plus belle. Mmh. Il y avait des corsos, il y avait de la musique, il y avait la Des rassemblements automobiles de luxe. Voilà, c'était un peu plus qualitatif, quoi. Mm-hmm. Et où en étais-je ?
Et donc, du coup, tu es rentrée dans cette clinique, oui. En 51.
Oui, voilà.
Et comment, en tant que femme, on arrive à travailler 12 heures par jour, élever un enfant...
Et aller travailler à pied.
Et aller travailler à pied, voilà.
Mes parents avait un appartement de 6 pièces. Et nous avions une chambre chez mes parents. Et c'est ma maman qui, en fait, s'est occupée de l'éducation, mon père aussi, de Rolande, de ma fille. Voilà. Alors j'ai retrouvé des fois, comme j'allais à pied, aller-retour, pour travailler. Quelquefois, le soir, je l'apercevais. Et quelquefois, je ne l'apercevais pas. Et c'était maman qui s'occupait totalement d'elle, quoi.
C'est la fin de la première partie du portrait d'Annie Bonhomme. La suite est fin dans une prochaine émission.